Richard Lesclide, Contes bleus et roses pour l'amusement des petits et des grands. Le prince Lion. Il était une fois un marchand qui avait trois filles. Les deux aînées étaient fort belles, mais elles ne manquaient ni de vanité ni de coquetterie. La plus jeune n'était que jolie, mais sa douceur et sa bonté étaient si grandes qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer un peu plus que les autres. Le père partit un jour pour un assez long voyage. En embrassant ses filles, il leur demanda ce qu'elles voulaient qu'il leur apportât. L'aînée avoua qu'elle serait très contente d'avoir une robe de soie et un justaucorps de velours. La seconde préféra un collier de perles. La troisième, qui avait le cœur gros de voir son père s'éloigner, lui dit tout bas. « Cher papa, je ne veux rien vous demander qui puisse retarder votre retour. Vous me rapporterez une rose. » Elle ne songeait pas qu'on était au cœur de l'hiver, et le père n'y pensa pas non plus. Il promit de les satisfaire et se mit en route aussitôt. Après avoir fini ses affaires en pays étranger, il songea à revenir chez lui, et il ne lui fut pas difficile d'acheter les perles et les habits qu'ils avaient promis à ses deux aînés. Mais la rose fut plus difficile à trouver. Quand il entrait dans un jardin pour en demander, on se moquait de lui et on l'engageait à en chercher sous la neige. Le froid était devenu si vif que les plantes en serre avaient même gelé. Cela l'affligeait beaucoup, car il tenait à contenter sa fille chérie. Comme il revenait chez lui, un peu ennuyé, en rêvant à ce qu'il pourrait acheter pour remplacer la rose, il passa sous les murs d'un parc magnifique dont les arbres lui parurent encore verts. Il arriva à la grille de cette habitation et, comme elle était entr'ouverte, il y entra pour se promener. Quel fut son étonnement en voyant une campagne fleurie et verdoyante comme à la fin du mois de mai. Les arbustes en fleurs y répandaient une odeur embaumée et des buissons de roses se balançaient au moindre souffle de vent. Il se dit qu'il ne causerait pas un grand dommage au propriétaire en cueillant une de ces 1000 roses qu'il avait sous la main, et il s'en empara. Mais lorsqu'il voulut sortir, il trouva la grille fermée. Un lion terrible parut devant lui et lui dit, en battant les airs de sa queue, « Tu vas périr, toi qui voles les roses de mon jardin !»« Hélas !» répondit le marchand épouvanté, « est-ce un si grand crime que d'avoir pris une rose ? Je suis prêt à vous la payer son pesant d'or s'il le faut. »« Je ne vends pas mes roses, » dit le lion, « mais je punis ceux qui les dérobent. Apprête-toi à mourir. »« Si vous saviez, » dit le pauvre homme, « pour qui j'ai cueilli cette fleur, vous me pardonneriez sans doute. C'est pour ma fille Rosette, qui est blonde comme le blé mûr, blanche comme le lait pur, et qui a les yeux bleus d'azur. Laissez-moi aller à cause d'elle. » Le lion ne répondit pas. « Quoi, rien ne peut-il sauver ma vie ? » ?»« Une seule chose, promets-moi de me livrer la première personne qui se présentera à toi quand tu rentreras dans ta maison. Vois si tu peux t'y engager. » Très volontiers, dit le marchand. Car il songeait qu'il serait certainement reçu par son chien de garde, qui avait l'habitude de venir au-devant de lui en aboyant toutes les fois qu'il revenait de voyage. Si tu manques à ta parole, dit le lion, souviens-toi que j'irai te chercher jusqu'au milieu des tiens. Vous pouvez compter sur moi, dit le bonhomme. Et il partit en toute hâte, heureux d'avoir échappé à un si grand danger. Sa joie ne fut pas de longue durée. Comme il approchait de chez lui, il vit accourir sa fille Rosette qui devançait ses sœurs et qui vint se jeter à son cou en lui faisant 1000 caresses. « Hélas, dit-il, qui te fait si presser? Et comment Ponto, mon gros chien, n'est-il pas venu me recevoir comme d'habitude ?» « Je l'ai enchaîné, » dit Rosette, « pour qu'il ne pût pas t'embrasser avant moi. » Le pauvre père se mit alors à fondre en larmes pendant que ses deux filles aînées défaisaient sa valise pour s'emparer des bijoux et des ajustements qu'il leur apportait. « Tiens, » dit-il à sa jeune fille en lui donnant la rose, « prends cette fleur qui me coûte si cher. Que ne m'as-tu demandé des diamants et des opales ?» Il raconta alors à ses filles tout ce qui lui était arrivé et, serrant Rosette contre son cœur, « Je te garde, » s'écria-t-il, « tu n'iras pas chez le lion à quelque prix que ce soit. J'aime encore mieux qu'il vienne me dévorer ici comme il m'en a menacé. » « Mon bon père, » répondit-elle, « rien ne peut dispenser de tenir sa promesse. Que voulez-vous que le lion fasse de moi? Vous êtes parvenu à l'attendrir, je ferai de même, et il me laissera revenir près de vous. » Les deux sœurs approuvèrent ce discours, et le marchand dut se résigner à la laisser partir. Elle ne prit avec elle qu'un paquet de robes et de dentelles pour s'habiller un peu, et son père l'accompagna jusqu'à la grille du palais du lion. La porte s'ouvrit pour la recevoir et se referma bruyamment sur elle. Pendant que le père rentrait chez lui, passablement triste, Rosette se promenait dans les jardins qu'elle admirait de tout son cœur. Elle vit des fleurettes si jolies qu'elle en cueillit machinalement et, comme elle avait la manie de faire des bouquets, elle fut bientôt chargée d'une gerbe de fleurs qu'elle ne savait où mettre. Elle s'assit sur un banc pour les arranger et s'oublia dans cette agréable occupation. Tout à coup, elle entendit tousser fortement et vit le lion assis en face d'elle. Il grimaçait un sourire énorme qui manqua la faire tomber à la renverse. Elle se leva pourtant et lui fit une profonde révérence. « Bonjour, Rosette, » dit-il. « Tu es une bonne fille d'être venue. Mais tu sais combien je tiens à mes fleurs. J'ai voulu faire mourir ton père pour une rose et tu m'en as cueilli plus de 500. »« Mon Dieu, » dit Rosette, « je ne l'ai pas fait méchamment. Et si vous tenez tant à vos fleurs, je suis toute prête à vous les rendre. » « Ce n'est pas ainsi que je l'entends, » dit le lion. « Ton père et toi, vous avez commis des fautes, et je ne puis vous les remettre que si tu consens à m'épouser. » Rosette se prit à rire. « Je vous épouserai, dit-elle, si vous aviez de moins longues dents. » Mais, ajouta le lion en faisant la petite bouche, « serait-ce de bon cœur ?»« Ce serait de bon cœur si vous aviez de moins grosses pattes. » « Serait-ce donc avec plaisir ?»« Avec plaisir, dit-elle, si vous ressembliez au prince charmant dont ma nourrice me disait l'histoire. »« Eh bien, dit le lion, viens avec moi. » Il la conduisit dans une galerie où de superbes tableaux étaient suspendus aux murailles. L'un d'eux représentait un prince accompli, blanc et rose, joli comme une fille, malgré de petites moustaches qui lui donnaient un air de bravoure. « Ce mari te convient-il ? » demanda le lion à Rosette. « Parfaitement, » dit-elle. On fit aussitôt les préparatifs des noces, et comme le soleil se couchait, le lion disparut, et la jeune fille vit à sa place le prince dont elle avait admiré le portrait. Il lui raconta qu'une fée l'avait condamné à être changé en lion pendant le jour parce qu'il avait refusé d'épouser sa filleule. Mais du coucher du soleil à l'aurore, il redevenait homme et reprenait tous ses avantages. « Trouvez-vous mes dents trop longues ? » dit-il en souriant à Rosette. « Non, monseigneur. » « Ai-je de trop grosses pattes ? » ajouta-t-il en lui montrant ses mains blanches. Elle secoua la tête et ils se marièrent sur le champ. La nouvelle princesse écrivit ces événements à son père et s'excusa de ne pas l'avoir invité, mais l'entrée du palais enchanté était interdite au public. Les deux mariés vivaient fort heureux et Rosette s'était même accoutumée au lion qui la suivait comme un chien dans la journée et qui la portait à la promenade. Pourtant, elle était triste quelquefois, quand elle songeait à son père et à ses sœurs qu'elle aurait voulu revoir. Le prince devina sa pensée. « Demain, lui dit-il un jour, votre sœur aînée se marie. Allez la voir, ma chère Rosette. Vous embrasserez votre père et vous lui porterez des présents. Mais n'oubliez pas de rentrer de bonne heure, je vous prie. » Elle le promit et partit bien contente. Sa famille l'accueillit en pleurant de joie. Elle eut la meilleure place à la noce et au festin. Elle fut pourtant contrariée par les observations de quelques voisines qui lui demandèrent des nouvelles de son mari et s'étonnèrent de ne pas le voir avec elle. Cela la fit réfléchir. Elle rentra un peu tard et trouva le prince fort en peine car il craignait qu'elle ne revînt pas. Elle le gronda de cette mauvaise pensée et lui dit « Dans 15 jours, ma seconde sœur se marie. J'ai promis d'aller à la noce, mais je veux que vous y veniez avec moi. » « C'est impossible, dit-il. » Alors elle se mit à pleurer, disant qu'elle avait l'air d'une femme abandonnée puisque son mari ne voulait pas se montrer avec elle. Elle ajouta 1000 raisons qui affligèrent fort le prince. « Apprenez donc un secret, lui dit-il. La fée qui me persécute ne me permet de voir que la lumière du soleil. Le palais que nous habitons est éclairé le soir par des rayons solaires enfermés dans des fioles et qui sont très difficiles à recueillir. Si, chez votre père, il tombait sur moi la moindre clarté artificielle, je serais changée en colombe et forcée d'errer dans le monde pendant 7 longues années. Voyez si vous voulez m'exposer à un pareil danger. » « Il me semble, dit Rosette, que nous pouvons le braver en prenant les précautions nécessaires. Je vous emmènerai dans une voiture bien close et, chez mon père, vous resterez dans un grand salon soigneusement fermé. » Le prince Lion se rendit à tant d'instances et conduisit sa femme à la noce de sa belle-sœur. Tout se passa d'abord à merveille et le prince reçut ses nouveaux parents dans une salle obscure, éloigné des appartements éclairés. Pour plus de sûreté, les rideaux avaient été doublés et l'on avait jeté par la fenêtre les briquets et les flambeaux de toute espèce. Rosette était donc bien tranquille quand un malheureux accident vint changer la fête en deuil général. Le marié, qui portait des bottes à clous d'acier, glissa sur le pavé de marbre. Une étincelle brillante jaillit sous ses pieds et fut suivi d'un cri douloureux. Le prince avait disparu. Une colombe blanche tournoyait dans la salle avec un grand bruit d'ailes. « Je pars, dit-elle à Rosette éplorée. Je vais voyager 7 ans sur la surface de la terre. Suivez-moi si vous m'aimez. Quand vous verrez tomber une plume blanche, vous saurez le chemin que j'ai pris. Venez, car au bout de cette épreuve, je courais un grand danger dont seul vous pourrez me délivrer. » L'oiseau s'envola à ces mots et Rosette le suivit après avoir embrassé son père. De temps en temps, elle trouvait des plumes blanches qui lui indiquaient de quel côté elle devait se diriger. Elle courut ainsi par tout le monde sans presque s'arrêter et la tristesse dans l'âme. Enfin, les 7 ans touchèrent à leur terme et elle se réjouit en songeant que ses peines allaient cesser. Cette pensée lui permit de se délasser un peu, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit d'un profond sommeil. Mais pendant son repos, un vent violent souffla et dispersa les plumes qui étaient tombées auprès d'elle. À son réveil, elle n'aperçut plus la colombe et resta tout à fait découragée. Elle s'adressa au soleil qui se levait. « Ô soleil, lui dit-elle, toi qui brilles en tout lieu, sur le sommet de la montagne et dans la profondeur de la vallée, as-tu vu quelque part une colombe blanche ?» Le soleil ne répondit pas, mais elle vit briller à ses pieds une pierre précieuse, dorée comme une topaze. Elle la ramassa et se mit à marcher jusqu'au soir. Quand la lune parut, elle tendit les mains vers elle. « Ô lune d'argent, toi qui brilles dans les champs, sur les bois et sur les eaux, as-tu vu quelque part une colombe blanche ?» La lune ne répondit pas, mais elle aperçut devant elle un œuf blanc comme la neige qui semblait être tombé du ciel. Elle s'en empara et reprit sa route. La nuit devint noire et profonde. Le vent du sud se leva et fit claqueter les feuilles des peupliers. « Oh, vent du sud !» s'écria Rosette. « Toi qui portes sur tes ailes les brises tièdes et parfumées, as-tu vu quelque part une colombe blanche ?»«
J'en ai vu mille, » murmura le vent, « mais non pas celle que tu cherches. Je vais demander à mes frères s'ils l'ont rencontrée. »
Les vents d'est et d'ouest se levèrent à leur tour, mais ils n'avaient pas vu l'oiseau fugitif. Enfin, une aigre brise souffla et fit frissonner la princesse. C'était le vent du nord qui lui sifflait dans les oreilles. « La colombe est au bord de la mer, » lui dit-il. « Elle est redevenue lion, car le temps de sa pénitence est achevé. Le lion combat en ce moment contre une chimère qui veut te l'enlever. C'est la filleule de la fée qui le poursuit de sa colère.
« Que puis-je faire pour le sauver ?» demanda Rosette tremblante.
« Je te le dirai, » répondit le vent. « Près du lieu du combat se trouve une forêt de lauriers. Il faut en cueillir une branche et en frapper le lion qui sera aussitôt victorieux. Mais prends garde de frapper aussi la chimère, car il t'en arriverait malheur. »
« Je m'en souviendrai, » dit la pauvre femme. « Mais qui me portera si loin ? Et comment arriverai-je à temps pour secourir mon prince ?»«
Je m'en charge, » dit le vent. « N'aie pas peur et laisse-moi faire. » Au même instant, la brise fraîchit. Les arbustes s'inclinèrent et les forêts agitèrent majestueusement leurs cimes verdoyantes. L'aquilon se fit entendre. Il arrivait avec un fracas terrible et brisait sur son passage tout ce qui osait lui résister. Les plus grands arbres ployèrent comme des roseaux. Rosette se sentit enlevée comme une plume et lancée dans l'espace avec la rapidité d'une flèche. Une heure après, elle tombait légèrement dans un buisson de laurier, à quelques pas des combattants qu'on lui avait désignés. Ils se livraient toujours bataille. Elle saisit une baguette et courut vers eux. Mais la chimère, avec sa longue queue de serpent, s'était tellement enlacée au lion qu'elle ne pouvait toucher l'un sans l'autre. Elle resta un moment indécise et perdue. Un cri d'angoisse poussé par le lion lui fit perdre la tête et elle frappa à l'aventure le groupe qui se débattait sous ses yeux. Au même instant, les monstres disparurent et l'on ne vit qu'une belle dame qui tenait tendrement embrassé le prince lion. L'inconnu veilla à ce qu'il ne tournât pas la tête vers la voyageuse et l'entraîna doucement avec elle. La malheureuse Rosette perdit la parole et demeura consternée en voyant s'éloigner l'ingrat. Elle ne pensait plus qu'à mourir lorsqu'elle songea tout à coup aux curiosités qui venaient du soleil et de la lune. Il lui sembla qu'elle devait lui être de quelque secours dans le malheur qui l'accablait. Cette idée la ranima et elle se mit en route pour la ville voisine où le prince avait été conduit. Quand elle y entra, elle vit dresser des estrades, déployer des pavillons et pavoiser les édifices. On lui raconta que la reine du pays allait épouser un prince puissant dont l'enchantement venait de cesser. Rosette se rendit au palais et demanda à voir la princesse.
« Que voulez-vous, mamie ? » lui demanda le portier. « Vous êtes bien sale pour parler à une aussi grande dame. »
Rosette, en effet, était un peu déchirée, mais la chose était pardonnable après une course de 7 ans.
« Il ne faut pas juger sur l'apparence, » répondit-elle. « J'apporte à la nouvelle mariée le plus beau diamant du monde et je ne le lui vendrai pas cher. »
Elle tira la pierre précieuse qu'elle avait conservée. Son éclat était tel qu'il éblouit tout le monde. La princesse voulut le posséder à tout prix.
« Vous ne l'aurez pas pour de l'or ni de l'argent, » lui dit la marchande. « Laissez-moi parler cette nuit à votre fiancé dans sa chambre et ce bijou vous appartiendra. »
La princesse y consentit, mais elle fit venir le chambellan du prince et lui recommanda de donner à son maître une boisson assoupissante qui l'empêcha de ne rien voir et de ne rien entendre. Quand la nuit fut venue, on conduisit Rosette auprès du prince Lion et on la laissa seule avec lui. Elle l'appela vainement. Quand elle vit qu'il ne répondait pas, elle se prit à pleurer et lui demanda s'il l'avait oublié. Mais le prince dormait si profondément que sa voix, ses cris et ses sanglots ne faisaient qu'effleurer son oreille comme le murmure du vent dans les sapins. De grand matin, on la fit sortir et les gens du palais se moquèrent d'elle. Elle se retira à l'écart, à peu près désespérée, pour essayer d'une dernière ressource. Elle brisa l'œuf que la lune lui avait donné et elle fut très surprise de n'y trouver qu'un petit chiffon blanc. Mais ce chiffon, en se déployant, devint une robe merveilleuse dont la finesse seule égalait la beauté. Cette étoffe était de si belle qualité que son séjour dans l'œuf ne l'avait même pas fripée. Rosette se hâta de courir chez la reine pour lui offrir cette admirable parure. « Me la vendras-tu plus cher que le bijou ?» lui demanda la princesse. « Le même prix, madame. »« Eh bien, c'est une affaire conclue. Donne-moi ta robe et cause tant que tu voudras avec mon mari. » Mais le soir, le prince refusa de boire le breuvage que le chambellan lui présentait. « Non, dit-il, je ne m'habitue pas à votre tisane. Elle est cause que mes oreilles ont bourdonné jusqu'à l'aurore. Je ne boirai pas. » Le chambellan insista si vivement que le prince pensa qu'on lui cachait quelque chose. Il fit semblant de boire et de s'endormir aussitôt. Au bout d'un instant, on introduisit dans sa chambre une inconnue et l'on ferma la porte soigneusement. Quel fut son étonnement en reconnaissant sa femme chérie. « Ah, ma Rosette bien-aimée, s'écria-t-il, vous m'éveillez d'un bien mauvais rêve. Je vous reconnais, je me souviens de tout. Cette méchante princesse avait jeté sur moi un charme qui m'avait fait perdre la mémoire. Venez sur mon cœur et ne me quittez plus. » Rosette pleurait de joie. « Il faut fuir, dit-elle, mais comment échapperons-nous à nos ennemis ?»« Ne vous en inquiétez pas, dit le prince, j'ai dans mes voyages conquis un talisman qui me rend plus fort qu'eux. Rentrons chez nous et perdons le souvenir de tant de traverses. » Il leva la main et Rosette se trouva auprès de lui dans les appartements de leur palais. Tout était illuminé de fond en comble et le bruit des trompettes avait peine à surmonter les éclats de la joie générale. Rosette retrouva son père, qui avait un peu vieilli, mais qui se portait bien. Ses sœurs lui firent mille amitiés. Elle vécut heureuse avec le prince Lion pendant de longues années, et ils eurent deux beaux enfants, garçons et filles, partage de rois.